Et c'est l'Philippe de l'Info Média du jour.
En pleine épidémie de coronavirus, elle est au cœur de l'actualité. Mais ce soir sur France 5, il ne sera pas question que de la propagation d'un virus. Il sera question de la façon dont la Chine conquiert le monde. Le pays compte devenir la première puissance économique mondiale en détrônant les États-Unis en 2049. Ce sera le centenaire. Comment la Chine moderne compte-t-elle s'y prendre? Réponse ce soir dans un doc réalisé par Walid Berissoul à partir de 20h50 sur France 5. Bonjour Walid Berissoul.
Bonjour.
Une soirée spéciale de C'est dans l'air présentée par Caroline Roux, et le documentaire sera exceptionnellement suivi d'une édition en direct afin de revenir évidemment sur l'actu en Chine autour du coronavirus. Vous avez été rattrapé par l'actualité. Quand avez-vous tourné ce documentaire? Accessoirement, êtes-vous en bonne santé? Avez-vous pris votre température avant d'entrer dans ce studio?
J'ai pas pris ma température ce matin, j'ai un petit rhume, mais ça va, a priori c'est pas le coronavirus.
Blague à part,
j'étais en Chine en septembre.
D'accord.
Fin septembre 2019, on était 10 jours avant l'anniversaire, les 70 ans de la fondation de la Chine populaire par Mao, donc on était dans une ambiance de ferveur patriotique assez forte, avec dans toutes les villes des drapeaux partout évidemment. Je me souviens notamment à Chongqing, qui est une ville assez impressionnante, une ville de 35 millions d'habitants avec une skyline sur laquelle il y avait des vidéos de propagande de l'armée rouge, enfin de l'armée de populaire de libération, en boucle comme ça le soir. Enfin voilà, on était vraiment dans cette ambiance-là de, on est à 70 ans de la fondation du régime de Mao. Et dans 30 ans, on se projette dans... Voilà, on vous donne rendez-vous sur la même place Tiananmen pour célébrer le fait que la Chine franchisse la première puissance mondiale.
Parce que c'est ça qui est très étonnant pour qui ne connaît pas la Chine, comme c'est mon cas, c'est que c'est à la fois un pays extrêmement moderne, capitalistique et communiste à l'ancienne, avec de la propagande quasiment, je vais pas te donner l'adjectif, mais quasiment à l'ancienne. Dans votre documentaire, vous montrez comment le pays étend peu à peu son pouvoir partout dans le monde. Au début, il y a cette musique angoissante, anxiogène, et cette question, l'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée? Pourquoi faudrait-il arrêter cette expansion, Walid Berissoul?
En fait, c'est pas tellement une question d'arrêter cette expansion, c'est plutôt une question, c'est ça qu'on a voulu montrer dans le documentaire, de savoir qui on a en face, en fait, à qui on a affaire, et de regarder un peu la Chine en face, pour qu'en fait finalement, pour finalement nous interroger sur qui nous sommes, nous, oui, Européens par exemple. C'est-à-dire, quand là on se pose des questions sur la 5G, le déploiement de la 5G dans les pays d'Europe, c'est une question finalement, derrière ça, il y a derrière, quoi. Et donc du coup, c'est ce qui nous a permis de comprendre, en fait, à travers ce documentaire, comment la Chine grandit et nous aide à nous définir nous-mêmes.
Vous n'avez pas répondu à ma question, qui est excellente puisqu'elle est la vôtre. L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée? Ou est-ce que non, c'est perdu?
Il y a quelque chose d'assez inéluctable que beaucoup d'experts disent, c'est que la Chine franchira, dépassera les États-Unis, son PIB en fait, de manière très économique, très statistique, dépassera, ouais, celui des États-Unis probablement avant 2049, dans les 20 prochaines années. C'est quelque chose finalement d'assez mécanique, puisque voilà, la production chinoise, ses exportations, toute son industrie font que ça franchira forcément cette étape-là.
Ce qui est paradoxal et ce qui est très bien montré dans votre doc, c'est que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont œuvré pour le développement de la Chine à l'époque de Clinton. Ils s'en mordent les doigts, c'est l'arroseur arrosé.
Oui, mais en même temps, ils se sont dit dans les années 80, quand Deng Xiaoping a voulu ouvrir l'économie chinoise, ils se sont dit, mais quel formidable terrain d'opportunité. Il y a un pays d'1,5 milliard d'habitants, un marché colossal, ils demandent qu'à consommer, qu'à recevoir nos entreprises, nos marques, notre Coca-Cola, notre Microsoft, etc. Je ne vais pas faire de publicité, mais voilà, et nos réseaux sociaux aujourd'hui encore, je veux dire... Apple, mais, Google, Facebook cherchent à s'implanter en Chine.
Mais ils ne pensaient pas qu'ils allaient se faire doubler et que maintenant la 5G, c'est plus avancé en Chine qu'aux États-Unis.
Eh ben voilà, exactement, puisque en fait le Parti communiste chinois, en accueillant les entreprises américaines mais aussi occidentales, françaises notamment, ont posé des conditions qui, au départ, étaient vues par les dirigeants occidentaux comme des conditions acceptables.
Les transferts de technologie.
Notamment les transferts de technologie, mais aussi le fait que le Parti communiste chinois, qui a un œil dans chaque entreprise chinoise, peut aussi avoir un œil dans des entreprises étrangères qui sont implantées en Chine. Le fait aussi, par exemple, qu'un employé chinois ait le droit de démissionner au bout de 6 mois, évidemment en emmenant avec lui un certain nombre de savoir-faire ou de secrets industriels dans l'entreprise dans laquelle il travaille, qui est une entreprise chinoise. Donc en fait, c'était des règles qui étaient à l'époque acceptées par les dirigeants occidentaux et les dirigeants d'entreprises en disant bon, de toute façon la Chine elle a tellement de retard à rattraper que le temps qu'ils arrivent à haut niveau, nous on aura avancé encore plus. Et en fait ils n'ont pas vu que la Chine a été beaucoup plus vite, surtout dans la dernière décennie, hein, dans les années 2010-2020, que ce qu'ils pensaient.
Qu'est-ce que l'arrivée de Donald Trump a changé dans les rapports entre les États-Unis et la Chine, si tant est que ça ait changé quelque chose?
Bah écoutez, d'un seul coup, effectivement, il est arrivé, il a dit voilà, on arrête ça, on leur fait la guerre commerciale. C'est lui qui l'a initié en réalité, en fait. Il a décidé.
Et ça a changé quelque chose ou ce ne sont que des mots?
C'est pas que des mots, parce qu'ils ont quand même eu, ils ont quand même souffert. Enfin, les deux pays en ont souffert. Hein. C'est-à-dire que on a vu les exploitations de soja aux États-Unis qui ont souffert des embargos en contre, parce que les Chinois ont quand même, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ils ont imposé exactement les mêmes tarifs commerciaux que les États-Unis leur ont imposé pour leurs propres exportations. Mais en fait, les deux pays ont souffert. Les Chinois ont aussi souffert, mais ils l'ont moins dit. Mais c'est vrai que ça les a quand même un peu tapé au portefeuille, d'autant que la croissance chinoise est en ralentissement avant même le début de la guerre commerciale de Trump. Donc Trump, quand il initie cette guerre commerciale un peu après son élection, il sait exactement quels effets ça pourra avoir.
La croissance chinoise est en baisse, mais quand même, il faut le dire, en 40 ans, 800 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, ce qui est quand même un chiffre énorme. Et vous montrez quelque chose, j'en parlais au début, du paradoxe de ce pays qui est à la fois capitaliste et communiste. Le parti communiste tient une place considérable dans le pays, c'est un euphémisme, à grande échelle, il y a petite échelle, comme dans ce comité local du PC. Écoutez cet extrait.
Ici, comme tous les 15 jours, la séance commence par un petit rappel des valeurs essentielles.
Vous savez, la France prétend être un pays démocratique, comme les autres pays occidentaux. Ils critiquent notre régime, ils trouvent notre système mauvais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le système chinois a beaucoup d'avantages. Notre système nous permet de réaliser de grands objectifs.
Une sorte de coaching d'entreprise animé par le chef du comité local, un certain monsieur Mao. Assis à sa gauche, monsieur Zhou écoute religieusement. Lui-même est devenu membre du parti il y a quelques années. Dans sa propagande, le parti cherche à mettre en avant une nouvelle figure héroïque, celle du start-upper.
Le communisme, c'est un moyen pour la Chine de conquérir le monde ?
Entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le capitalisme, d'une certaine façon, puisque voilà, les capitaux privés affluent, que les choses se font de cette manière-là, même si les entreprises sont quand même extrêmement étatisées et qu'en réalité, une entreprise privée en Chine, ça n'existe pas.
Ouais, ils sont hyper connectés, les Chinois. 800 millions d'internautes utilisent des smartphones et ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils ont plus de porte-monnaie, enfin certains, plus de badges dans les entreprises. Tout se fait virtuellement ou via la reconnaissance faciale. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné?
En fait, c'est ça, moi, qui m'a étonné. C'est d'une certaine manière, déjà le fait que les choses sont allées extrêmement vite, c'est-à-dire qu'en Chine, en fait, la carte bancaire, l'étape de la carte bancaire n'a pas eu lieu. Ils sont passés directement du paiement liquide. En liquide au paiement par ces applications comme WeChat ou comme Alipay, la filiale d'Alibaba, l'Amazon chinois, qui permettent de payer avec des QR codes, en fait, des petits flash codes. Et effectivement, l'étape d'après, qui commence déjà à arriver dans certains restaurants, dans certains lieux de consommation, c'est la reconnaissance faciale, le paiement par voilà, vous arrivez avec votre visage et vous scannez et vous rentrez, vous payez votre addition ou votre place de cinéma.
D'accord.
Voilà.
Et ça fait quel effet?
Eh ben,
moi, je vais vous dire, ça me fait peur. En un mot.
En un mot, en fait, je trouve ça impressionnant dans le sens où on les sent. Nous, on est en Europe, on est très méfiants par rapport à la technologie. Alors oui, en un mot, ça va être difficile à dire.
Vous savez quoi? Vous restez avec nous. Futuriste. On fera plein de mots futuristes avec Walid Berry. Comptez que le dirigeant Xi Jinping a fait développer une application pour smartphone pour destination des 90 millions de membres du Parti communiste. Il y a quoi dans cette appli?
Dans cette application, il y a la pensée Xi Jinping. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des articles, il y a des vidéos de Xi Jinping en visite dans tel ou tel endroit de Chine. Et tous les jours, en fait, les membres du Parti communiste sont censés apprendre, lire, écouter, regarder la pensée de leurs dirigeants. Et tout ça est sanctionné d'ailleurs par des notes,
ouais,
par des points. C'est-à-dire, on lit un article, on gagne un point. On regarde une vidéo, on gagne trois points. Il y a des quiz aussi sur, alors à la fois avec de la culture générale sur quel est le plus long fleuve de Chine ou je sais pas la longueur de la muraille de Chine, mais aussi sur évidemment les directives répétées de Xi Jinping et de la tête du Parti communiste.
Et on peut peut même gagner des cadeaux, ce que vous montrez. Oui. Une application qui est en fait un moyen de surveiller la population. C'est ce qu'explique Valérie Niquet. Elle est responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique.
Une ONG allemande a récemment découvert la présence d'un mouchard niché dans l'application Xi Jinping. Grâce à ce mouchard, le parti peut avoir accès aux autres applications fréquemment ouvertes par M. Mao, y compris des applications censées être censurées, comme Facebook ou WhatsApp. Le parti peut aussi espionner toutes ses conversations privées.
Si on est membre du Parti communiste et qu'on est mal noté parce que, par exemple, on a une pratique religieuse ou ce genre de choses, où on ne lit pas assez les œuvres du président Xi Jinping, où on manque d'enthousiasme quand on les lit, il y a tout ce système, par exemple, d'arrestation qui peut durer pendant des mois, si ce n'est plus, où les gens sont hors de tout système légal et peuvent disparaître ou réapparaître s'ils cèdent. Et tout ceci est fondée également sur la surveillance politique.
C'est ce qu'on comprend quand on n'est pas d'accord avec le régime, on est emprisonné, ce qui arrive notamment aux membres de la communauté ouïghour. Quelles infos vous avez eues à ce sujet ?
Sur les Ouïghours,
oui.
ce qu'on a vu par la suite aussi, surtout parce que les choses sont beaucoup sorties à ce moment-là, au moment de notre retour de Chine, c'est le chiffre assez effrayant donné par les Nations Unies sur le nombre de Ouïghours, entre 1 et 2 millions internés dans des camps. Et effectivement, c'est ce qu'explique d'ailleurs dans le documentaire un peu plus tard François Bougon, qui raconte qu'une fois qu'il y a ce contrôle par notamment le numérique, l'étape d'après, ça peut être carrément l'internement d'une partie de la population, des Ouïghours notamment, pour finalement qu'ils soient un peu plus communistes et un peu moins musulmans.
Il y a deux versants dans votre documentaire. Il y a la Chine en Chine et puis la Chine à l'extérieur de la Chine. Le pays s'est lancé dans un projet monumental, les nouvelles routes de la soie, dans lequel plus de 1000 milliards de dollars, tiens, en parlant dollars, ont été investis. Explication.
Officiellement appelée Initiative Ceinture et Route, la ceinture, c'est un réseau tentaculaire de lignes ferroviaires, de routes, de pipelines qui relie l'Empire du Milieu à l'Europe. La route, c'est un ensemble de liaisons maritimes qui connecte la Chine aux principaux ports de la planète. Une myriade d'investissements chinois dans près de 70 pays où vivent 4,5 milliards d'habitants, la moitié de la population mondiale connectée d'une manière ou d'une autre à la Chine.
Cette myriade d'investissements, ça vise quel but selon les dirigeants ? C'est que le monde ne puisse plus se passer de la Chine, c'est ça l'idée ?
Oui. C'est ça, exactement. Et on l'a redit, le chiffre est assez impressionnant. 4 milliards d'habitants, finalement, dans tous les pays qui sont connectés à la Chine d'une manière ou d'une autre. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de continents. Et effectivement, c'est une façon pour la Chine aussi de remonter toute la richesse dont elle a besoin pour son développement futur.
Des grands pays, des petits pays, vous êtes rendu dans les territoires de toutes les échelles sociales. Par exemple, en Éthiopie, vous êtes allé dans une usine qui fabrique des chaussures. Le client est américain, le fabricant est chinois, mais la main-d'œuvre est éthiopienne. C'est juste la mondialisation ou c'est plus grave que ça ?
C'est la mondialisation à la chinoise. C'est ça qui nous a frappé en Éthiopie. C'est qu'on va en Éthiopie, on se dit, bon bah voilà, moi j'avais l'idée que bon, dans pas mal de pays, quand je sais pas, on arrive, on se dit que le modèle, c'est le modèle américain. Bah en fait là non, on rencontre ce contremaître, lui son modèle c'est Jack Ma, c'est le fondateur d'Alibaba et c'est l'entrepreneur à la chinoise, c'est le développement à la chinoise, c'est les méthodes de travail chinoises et c'est ça finalement qui fonctionne. Et soit dit en passant sur l'histoire du client américain, c'est ce qui permet aussi d'éviter les mesures de rétorsion commerciale, puisque l'usine n'est pas en Chine, elle est en Éthiopie, elle est en Afrique.
Mais est-ce qu'ils vont subir, les Chinois, les mêmes choses qu'ont subi les Occidentaux, à savoir que s'ils font fabriquer leurs objets en Éthiopie, où le coût du travail est 10 fois moins cher qu'en Chine, du coup, c'est les Chinois eux-mêmes qui vont en pâtir?
Alors, il y a ce risque aussi, effectivement, même si l'objectif des routes de la soie, c'est de faire sortir les entreprises chinoises, d'exporter le travail, en fait, ça donne aussi des débouchés, beaucoup plus de débouchés qu'avant, pour les entreprises chinoises notamment. Donc ça fait bosser finalement beaucoup plus de monde, même si effectivement le travail à bas coût qui était jusqu'à présent réalisé en Chine, enfin il y a encore 20 ans, aujourd'hui n'est plus et l'est ailleurs, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est.
Il n'y a pas besoin d'aller en Éthiopie, au Sri Lanka ou en Grèce pour voir l'étendue de l'Empire chinois. En France, les Chinois mettent la main sur des terres agricoles. Racontez-nous ce qui se passe à Thiel-sur-Acolin, c'est dans l'Allier.
Alors à Thiel-sur-Acolin, il y a eu l'achat de 1700 hectares de terres que personne n'a vu venir. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un montage juridique qui a fait que les élus, les responsables agricoles ont vu dans le journal que le notaire avait signé l'acte de vente et c'était fini parce qu'en fait, ils ont réussi à rentrer dans une faille juridique un peu compliquée. Mais en fait, ça montre que...
Elles vont devenir quoi ces terres ?
On ne sait pas exactement ce qu'elles vont devenir. C'est du maïs. Voilà. Ouais. Il y a aussi 900 hectares dans l'Indre, pareil. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la grande photo, quoi. C'est-à-dire que les terres agricoles, c'est pas seulement en France, mais c'est partout dans le monde. Et, certes, et pour la Chine, en fait, c'est aussi une manière de se projeter dans 50 ans, en se disant voilà, on aura peut-être besoin d'avoir ces terres-là pour plus tard, pour l'avenir. C'est une manière pour eux de préparer l'avenir, en fait.
Mais je vais donner le chiffre que j'ai piqué dans votre doc. Pékin a 17 millions d'hectares de terres partout dans le monde. Chine, OPA sur le monde. Documentaire à voir ce soir dans le cadre de la soirée spéciale C'est dans l'air sur France 5 à partir de 20h50. Ensuite, il y aura un débat en direct dans lequel seront abordés les derniers événements autour du coronavirus. Merci beaucoup, Walid Berissoul,
à bientôt,
d'être venu avec nous ici. Merci. Sur Europe en direct.